une équipe de l'Université de Montréal est en train de développer une application pour aider les gestionnaires d'entreprises dans leur interaction avec leurs employés autistes, en collaboration avec la Fondation Autistes et Majeurs. On reçoit donc Marc Lanovaz. Il est professeur titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Il dirige l'équipe de recherche qui effectue le projet sur donc l'intégration en emploi des personnes autistes. Bienvenue à l'émission, Marc.
Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis content d'être là.
Alors, Marc, tu es chercheur en comportement, en analyse de comportement et en psychoéducation. Donc, des travaux qui touchent, entre autres thématiques auxquelles on va arriver, là, l'utilisation de l'apprentissage automatique pour améliorer une prise de décision clinique. Là, explique-nous un peu ce que ça veut dire, là, l'apprentissage automatique.
Mais ça, on fait plusieurs projets. L'apprentissage automatique, c'est ce que les gens appellent souvent le machine learning. Donc, on va entendre le terme en anglais.
Oui.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des ensembles de données pour essayer d'améliorer le type de décision qu'on va prendre avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc, moi, je travaille principalement avec des personnes autistes ou des personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc, on a beaucoup de décisions à prendre avec eux au quotidien quand on met en place des traitements, quand on veut améliorer des interventions. Donc, nous, on utilise l'apprentissage automatique. Donc, on donne les données à une machine, un ordinateur, pour qu'il puisse apprendre, puis j'utilise des guillemets.
Oui, je voyais les guillemets, oui.
J'utilise les guillemets à détecter les patrons dans les données pour pouvoir nous aider à prendre des meilleures décisions avec ces gens-là.
D'accord. Donc là, je sais que tu travailles avec des personnes qui, on parle qui ont un trouble, ce qu'on appelle au niveau du spectre de l'autisme, parce que je pense que c'est assez large. Quand on dit une personne autiste, c'est assez large.
Oui.
Là, fait qu'ils peuvent avoir ça des différents degrés. Alors, comment on peut utiliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour donner du service à ces personnes-là?
Mais c'est des choses qu'on a développées. Lorsqu'on met en place des interventions pour ces personnes-là, mais on fait un suivi régulier, on prend des données pour voir est-ce qu'ils font des progrès ou pas. Mais lorsqu'on prend des décisions sur ces données-là, mais il y a des recherches qui montrent que même des professionnels comme moi avec un doctorat ne sont pas toujours d'accord. Ils ne prennent pas toujours les meilleures décisions. Donc nous, on entraîne des modèles pour montrer que mais on peut prendre des meilleures décisions, des décisions plus fiables ou plus régulières avec notre travail pour nous aider, par exemple, à ce niveau-là. Une autre étude qu'on a fait, quand on travaille avec ceux qui ont plus de difficultés au niveau cognitif notamment, ils font parfois des comportements qu'on appelle défis. Donc, ils vont faire des comportements qui peuvent être jugés problématiques, comme mordre, se cogner la tête, faire de l'agression envers autrui. Donc, tu sais, pour les aider à réduire ces comportements-là, notre première étape, c'est d'identifier la fonction. On veut identifier pourquoi est-ce que ces jeunes-là, ces adultes-là font les comportements. Puis, on a développé des algorithmes qui nous permettent de faire ça plus rapidement. Donc, les meilleures méthodes actuellement, par exemple, demandent un expert, prendre plusieurs heures. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des outils. Il y a un outil qui existait déjà qui prend 5 à 10 minutes à administrer, mais qui n'était pas très bon. Donc, identifier, on va dire, la bonne fonction dans 50% des cas.
OK.
Ce qui n'est pas très... C'est correct, là, tu sais, mais c'est pas très...
Mais ça, c'est pas utile. Une fois sur deux, c'est pas utile.
C'est ça. Ouais. Tandis qu'avec l'intelligence artificielle, on a pu améliorer à 90% du temps.
Donc,
on a développé des modèles qui nous permettent maintenant de mieux identifier, fait que ça permet d'offrir des meilleurs services plus rapidement, puis surtout mieux adaptés à la personne, parce que ça... Tu sais, notre but, c'est que nos interventions durent le moins longtemps possible pour que la personne se sente bien, puis qu'elle puisse être intégrée dans le plus de milieux possible, parce que les comportements des filles... L'enjeu principal, c'est que ça exclut beaucoup la population avec laquelle je travaille, des loisirs, des milieux éducatifs, même pour recevoir des services de la santé des fois.
Oui, c'est pas évident. Et surtout que, pour le commun des mortels, quand on est face à une personne qui souffre du spectre de l'autisme quelque part, là, dans le grand spectre, bien, parfois l'interaction est pratiquement inexistante. Alors, c'est pas facile là, d'avoir quand on doit offrir un service à cette personne.
Oui, puis nous, on cible principalement, comme vous dites, c'est quand même un spectre. Nous, on vise beaucoup ceux qui sont, on appellerait minimalement verbal, c'est-à-dire qui ne communiquent pas beaucoup, qui ont peut-être un moyen de communication par image. Donc, c'est excessivement difficile de comprendre. On ne peut pas leur demander verbalement ce qu'ils veulent ou pourquoi ils font les comportements. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres stratégies qui nous permettent de mieux intervenir. Puis comme je disais, à la fin de la journée, le but, c'est d'améliorer leur bien-être.
Oui, tout à fait. On veut que les gens soient bien. C'est le but de l'exercice. Donc, ce qui nous amène à cette entrevue aujourd'hui, pourquoi on l'a fait, c'est que ton équipe et toi, vous avez développé en réalité virtuelle, donc, une espèce de technologie, une application qui permet aux gens de comprendre, mieux comprendre la réalité que vivent les personnes qui ont un spectre du trouble de l'autisme. Oui, là, je viens tout de faire ce travail, qui ont un trouble dans le spectre de l'autisme. Voilà.
Oui, c'est ça. T'sais, eux, souvent, ils préfèrent le terme juste autiste, parce que c'est pas nécessairement un trouble.
Ouais.
Donc, parce que c'est surtout ceux qui fonctionnent bien à ce moment-là. De la nomenclature, il y a beaucoup de débats en ce moment, mais le vocabulaire qu'on utilise plus aujourd'hui, c'est vraiment autiste. Puis on a développé, en fait, on n'a pas utilisé l'apprentissage automatique pour ça, mais on a développé une application de réalité virtuelle.
Mm-hmm.
Donc, l'application de réalité virtuelle permet de mettre la personne dans la peau d'une personne autiste. En fait, j'aime pas dire, ça simule du mieux qu'on peut. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. De mettre la personne dans la peau d'une personne autiste. Donc, la personne arrive dans un bâtiment un peu comme celui-ci.
Oui.
Elle apporte un casque de réalité virtuelle. Donc, elle arrive à l'étage, donc après arriver au cinquième étage ici au studio. Puis, elle doit trouver où est le bureau d'un dentiste. Mais on met en place on manipule la stimulation que la personne obtient pour un peu simuler l'autisme. Donc, on fait de la surstimulation pour que les problèmes deviennent excessivement difficiles à résoudre avec les caractéristiques liées à l'autisme pour montrer que même des situations qui peuvent sembler anodines pour certains, trouver le bureau d'un dentiste, aller au dentiste, peuvent devenir excessivement stressantes quand on ne sait pas... quand on a des défis au niveau sensoriel ou des défis au niveau de la compréhension des indices sociaux.
Il n'y a rien de mieux que de se mettre dans la peau, d'essayer de se mettre dans la peau d'une personne pour comprendre sa réalité, finalement. Hein?
Oui, c'est ça. C'est que ça va coûter... On a fait un projet de recherche, puis on a des vraiment bons résultats vraiment qui surpassent nos attentes. Puis on soupçonne que c'est parce que ça va chercher le côté affectif des gens. Donc, tu sais, c'est pas juste de l'apprentissage, je t'explique c'est quoi l'autisme. Ça va au-delà de ça. Ça va vraiment simuler, puis chercher le côté, tu sais, t'es dans l'action, fait que tu vis du stress.
Ouais.
Fait que ça fait que ça s'imprègne davantage, puis tu as une meilleure compréhension après ça de ce que ces personnes-là peuvent vivre.
Là, on a parlé beaucoup de situations où les gens vont chercher des services ou du moins avoir une interaction sociale. La personne qui est autiste, comment ça fonctionne quand elle doit travailler? C'est quoi ses obstacles principaux?
Mais les obstacles, souvent, c'est évidemment les défis au niveau des habiletés sociales parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui exigent, surtout quand on travaille avec le public, qui exigent des interactions. Donc, ça peut mener à des compréhensions erronées soit des clients ou juste au niveau des collègues de travail.
Ouais.
Donc, le défi, même pour des emplois qui n'exigent pas beaucoup d'interaction avec les collègues, avec le public, mais on a quand même, la plupart des emplois exigent des interactions avec les collègues de travail. Donc, ça peut mener, puis avec un supérieur, mais ça peut mener à des interactions qui sont mal interprétées. Puis c'est un peu ça l'enjeu qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup, il y a des pertes d'emploi qui vont arriver parce que le gestionnaire, mais comprend pas, la personne autiste va dire, mais elle utilise toujours un ton monotone, fait qu'elle m'aime pas ou est pas satisfaite de son travail. Mais ça veut rien dire, parce que la personne autiste n'utilisera pas le non-verbal de la même façon que vous et moi, par exemple, on va l'utiliser. C'est la même chose pour la compréhension du non-verbal. C'est peut-être qu'il faut être très spécifique. Donc, des fois, il peut avoir... C'est souvent des mécompréhensions, des mauvaises compréhensions qui font que ça mène à des situations qui font que...
Ça devient conflictuel.
Ça devient conflictuel. Il peut avoir des pertes d'emploi. T'sais. Mais au fond, si on comprend mieux les personnes autistes, à ce moment-là, ça nous permet de mieux expliquer puis de mieux comprendre la réalité là, au quotidien et à l'emploi.
Alors, c'est intéressant parce que depuis 2 semaines que j'anime cette émission, on a parlé plusieurs fois là, de cette situation. On est en pénurie de main-d'œuvre et donc on doit, de plus en plus, les employeurs doivent s'adapter et d'ouvrir aux personnes en situation d'handicap ou des personnes avec des défis comme une personne autiste. Donc, cette application-là, est-ce que ça va aider les employeurs à aider l'employé aussi dans un...
Oui, en fait, on a une série de deux applications. Donc, il y a celle de se mettre dans la peau de la personne autiste, mais on a aussi une application sur téléphone intelligent qu'on est en train d'évaluer, vraiment pour aider le gestionnaire. Donc, dans cette application-là, on a créé des vidéos informatives et humoristiques à la fois pour les gestionnaires pour mieux comprendre l'autisme. Donc, on explique un peu c'est quoi. Puis, on explique aussi des stratégies à mettre en place pour minimiser les défis. Il y a aussi dans cette application-là des témoignages d'employeurs et de gestionnaires et de personnes autistes pour un peu discuter des défis auxquels ils ont fait face. On a même un arbre décisionnel pour aider le gestionnaire, mais je rencontre un problème avec mon employé autiste. L'application s'appelle Mon employé autiste, en fait.
Un problème,
j'aime pas les problèmes, moi, c'est des défis ou des différences. Mais je peux rentrer dans l'application, je peux rentrer, mais j'ai un défi au niveau à tel niveau. Puis là, ça va donner des suggestions au gestionnaire de qu'est-ce qu'il peut mettre en place. Puis il y a aussi une liste de ressources. Si jamais le défi est plus grand, ça demande vraiment une intervention plus poussée parce que ça arrive avec certaines personnes. À ce moment-là, ils peuvent aller chercher les ressources nécessaires.
Parce qu'il faut se le dire, là, la personne autiste peut être un excellent employé dans une entreprise. Là. Le problème est au niveau des interactions sociales, mais souvent, ces gens-là sont capables de faire beaucoup de choses. Là.
Absolument. Puis j'aime bien que vous avez utilisé le mot excellent, là, parce que moi, je pense vraiment qu'ils peuvent être excellents. Là. Je vais utiliser une information anecdotique, mais la personne qui programme l'application Mon employé autiste, c'est une personne autiste.
Ah, ça, c'est génial.
Et j'ai rarement été aussi satisfait d'une équipe de programmation. Là. Il s'appelle, au fond, je vais faire une petite blog, mais il s'appelle Oticon. Mm-hmm. Puis il embauche des personnes autistes, des programmeurs autistes pour aider des compagnies privées ou des gens comme moi. Moi, je travaille à l'université, qu'on peut les embaucher. Là. Puis je veux dire, j'ai été vraiment, vraiment impressionné par la qualité du service. C'est juste qu'il faut il faut comprendre, puis pas trop prendre personnel les différences. Parce que, tu sais, une remarque qui vient souvent, c'est la personne autiste m'aime pas parce que elle a un ton monotone parce qu'elle ne montre pas ses émotions dans son non-verbal, mais ça veut pas, ça veut souvent rien dire. Là.
J'aurais une question personnelle pour terminer cet entretien. Qu'est-ce qui fait que toi, Marc, tu t'es impliqué auprès de ce genre de projet? C'est pourquoi c'est important pour toi?
Mais moi, je travaille auprès des personnes autistes. J'ai commencé, j'avais 19 ans. Puis j'ai toujours été fasciné, puis j'ai toujours trouvé les personnes autistes très attachantes puis incomprises. Donc, ça me permet juste de continuer à travailler avec eux. Puis quand l'autiste est majeur, la Fondation Autiste majeur m'a approché. Enfin, on s'est approché mutuellement pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les personnes en emploi. Mais c'est un projet qui me fascinait. Puis je trouve qu'on donne pas assez de crédit puis on n'intègre pas assez bien les personnes autistes, surtout en emploi. Puis ils peuvent tellement nous amener beaucoup puis on les sous-estime. Fait que j'ai sauté à pieds joints.
Quel beau témoignage. Marc Lanovaz, professeur titulaire à l'École de psychoéducation à l'Université de Montréal. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Et merci encore.